Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Cette semaine, nous allons parler du potentiel des activités de coaching en Afrique. Quelles sont les opportunités qui s'offrent dans le contexte actuel et comment développer ces activités? Nous en parlons avec notre invité. Il s'agit de Fouad Ezbiri. Il est expert en neurosciences. Vous l'entendrez dans quelques instants. Au-delà de partager des ressources gazières dont la phase d'exploitation démarre dans quelques semaines, le Sénégal et la Mauritanie entendent renforcer leur coopération économique dans plusieurs secteurs. Un forum économique vient de se tenir à Dakar. Nous irons sur place pour le compte-rendu avec Daouda Sow. Tels sont les principaux sujets de votre émission. Tout de suite, le développement.
Les échos de la semaine.
Mais avant de développer ces titres, voyons d'abord ce qui a fait l'essentiel de l'actualité économique africaine de la semaine. Et nous allons à Rabat, où viennent de se tenir les deuxièmes assises des industries culturelles et créatives au Maroc. Lors de cet événement, le directeur général de la Société financière internationale, la SFI, Martar Diop, a fait remarquer que plus de 2,5 millions de personnes travaillent dans les industries culturelles et créatives en Afrique. Ce secteur est considéré comme très prometteur au regard de son potentiel de création d'emplois. La SFI dit en faire une de ses priorités, notamment avec la nomination d'un coordinateur pour les industries créatives en Afrique. Direction Dakar pour parler des relations économiques entre le Sénégal et la Mauritanie. Au-delà de partager des ressources gazières dont la phase d'exploitation démarre dans quelques semaines, les deux pays frontaliers entendent renforcer leur coopération économique dans plusieurs secteurs. Un forum économique vient de se tenir à Dakar. Écoutons le compte-rendu de Daouda Sow.
Cet événement symbolise le premier forum économique sénégalo-mauritanien, deux pays frères unis par l'histoire, la géographie et les peuples.
Sous l'impulsion de nos deux dirigeants, nos pays connaissent une émergence économique qui est amplifiée par les accords que nous avons ensemble, notamment dans le domaine de la pêche. Nous pensons qu'on peut explorer davantage les coopérations entre nos deux secteurs privés et également la Mauritanie dispose de ressources abondantes en élevage qui peut être aussi exploré et dans le domaine des mines aussi. Donc j'invite mes chers frères sénégalais en Mauritanie pour explorer davantage les opportunités qu'ils peuvent co-développer avec le secteur privé mauritanien.
Pour faciliter ce climat des affaires entre les deux pays, il urge d'harmoniser les cadres juridiques existants, ce qu'ont compris les autorités sénégalaises et mauritaniennes.
En termes d'harmonisation de nos régimes d'investissement, de nos incitations à investir, il y a une très grande différence. Et je souhaiterais effectivement que mon collègue, le ministère de l'Industrie, avec nos collègues du ministère de l'Énergie et toutes ces structures d'investissement, comme l'APEX et l'APIM, qu'on puisse se mettre autour d'une table pour voir comment harmoniser justement le cadre juridique, notamment l'impôt sur le revenu qu'il faut revoir sur les deux pays, notamment les incitations de quand on vient de s'installer, est-ce qu'on laisse les industries avec zéro taxe pendant 5 ans, pendant 10 ans. Ça, c'est des thèmes qui sont importants. Mais nous devons aussi avoir des tarifs communs, justement, pour l'énergie, des tarifs communs pour tout ce qui touche aux différentes charges des entreprises.
Dans cette volonté commune de renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays, les secteurs privés respectifs comptent y jouer leur partition. Un protocole a été signé à cet effet, instituant un conseil d'affaires.
Bon, le conseil d'affaires, il permet déjà un cadre dans lequel des réunions permanentes peuvent se faire, disons tous les 6 mois. Il permet aussi d'identifier des secteurs où il y a un commun intérêt de part et d'autre. Il permet aussi d'identifier des gens qui vont porter l'intérêt de ces deux secteurs. Donc on crée un cadre d'échange permanent, de contact pour développer ce co-investissement que nous attendons. Nous avons espoir, on vient de le mettre en place. On fera le point dans un an. Je vous dirai, mais ça a permis de faire ceci. Ça a permis de rentrer dans des investissements communs.
Ce forum de deux jours entre le Sénégal et la Mauritanie se veut une plateforme d'intégration économique entre les deux pays à l'heure de la transition énergétique. Une façon de booster la contribution des secteurs privés sénégalo-mauritaniens.
Merci à vous, Daouda Sow, correspondant de Midi 1 à Dakar.
Coémergence, l'invité.
Et nous allons parler du potentiel des activités de coaching en Afrique. Quelles sont les opportunités qui s'offrent dans le contexte actuel et comment développer ces activités? Nous en parlons donc avec notre invité. Il s'agit de Fouad Esbiri. Il est expert en neurosciences et actif donc dans le domaine du coaching. Bonjour à vous, Fouad Esbiri, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à toutes et à tous. Content de partager ce petit moment avec vous.
Effectivement. Alors, il est vrai que quand on parle des activités de coaching, peut-être que beaucoup ne comprennent pas forcément de quoi est-ce qu'il s'agit. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer?
Alors, après, le coaching, c'est un mot qui a été un petit peu vulgarisé. On l'a utilisé un peu dans tous les sens. Donc, coaching en séduction, coaching pour la cuisine. Donc, le mot coaching, c'est accompagnement. Donc, après, il y a plusieurs types de coaching. Moi, le coaching que je pratique, c'est le coaching de vie où j'accompagne des gens, que ce soit des... Alors, j'ai beaucoup travaillé avec des sportifs de très haut niveau comme Karim Benzema et plein d'autres footballeurs professionnels, des combattants. Donc, il y a tout ce qui est préparation mentale, le coaching de vie où des gens qui ont des blocages dans leur vie et qui n'arrivent pas à atteindre certains objectifs. Il y a des gens qui ont subi des chocs émotionnels, c'est un divorce, un accident, des choses qui sont un peu plus lourdes. Donc, on va les accompagner à traverser une phase un peu difficile pour eux. Et puis, il y a des gens qui, tout va bien dans leur vie, mais ils veulent juste franchir un cap. Donc, en fait, le coaching, il y a plusieurs secteurs et voilà. Mais c'est vraiment attrait à une évolution, on va dire, personnelle. Aider les personnes à atteindre des objectifs.
Alors, est-ce que vous remarquez que sur le continent aujourd'hui, il y a une demande, un besoin par rapport à l'émergence de ces activités?
Alors, si je veux être sincère avec vous, en fait, aujourd'hui, tout le monde devrait se faire accompagner, tout le monde devrait faire du coaching. Parce qu'on a tous des freins psychologiques, des barrières qui nous empêchent, à un moment donné, de libérer notre potentiel. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. Quand on regarde donc aujourd'hui, les gens qui sont les meilleurs dans le sport, par exemple, eh bien, ils font appel à des coachs mentaux. Donc pourtant, c'est déjà les meilleurs, ils font appel à des coachs. Donc si les meilleurs font appel à des coachs, qu'est-ce que c'est ceux qui ne sont pas meilleurs? Pour moi, aujourd'hui, tout le monde a des blocages, tout le monde a des freins psychologiques qui sont des fois inconscientes et qui nous empêchent d'atteindre eh bien, ce potentiel. Et donc, se faire accompagner, si on veut être plus épanoui, plus serein, plus heureux, ou tout simplement aller plus vite pour atteindre l'objectif, on devrait se faire accompagner. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde.
Alors, vous répétez depuis tout à l'heure donc, le mot tout le monde, ou plutôt l'expression tout le monde. Cela dit, sur le plan des entreprises qui veulent se développer, ou bien plutôt gérer leur aspect social au sein des entreprises, dans le cas de l'Afrique, qu'est-ce qui peut être proposé?
Dans l'Afrique, l'Afrique, c'est un continent maintenant qui est en pleine expansion. On voit qu'il fait un grand boom, qu'il se réveille un peu aujourd'hui. Mais malheureusement, en Afrique, il y a encore un petit peu des freins psychologiques ou avec ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance, est-ce qu'on peut rivaliser avec les Européens, les Américains, les Occidentaux. Et donc, rien que de ce point de vue-là, un accompagnement peut leur permettre de franchir tous les caps et de se dire qu'ils ont un gros potentiel. Et il suffit juste maintenant de l'exploiter. On appelle ça en fait un potentiel des fois qui est caché, masqué, oublié. Et le coaching peut leur permettre de réveiller ça de manière à libérer leur potentiel, d'être plus fort mentalement et après peut être plus concentré, plus productif, une meilleure confiance en soi et affirmation et prendre plus de risques. Donc, alors, réussir plus facilement.
Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vu les défis auxquels les entreprises africaines sont confrontées, quel est le plus que cela peut apporter? Comment ces activités-là peuvent aider les entreprises à améliorer le rendement de leur personnel par rapport à leurs défis?
D'accord. Après, ça va dépendre du secteur de l'activité. Il peut y avoir dans certaines activités, peut-être des employés qui manquent un peu de motivation, qui manquent peut-être de discipline, qui procrastinent, ils manquent d'énergie. Donc là, l'accompagnement peut aider ces gens à être beaucoup plus productifs, plus concentrés.
Mmh.
On sait qu'aujourd'hui, le temps de concentration dans une journée, quelqu'un qui est payé plus ou moins 7 heures, aura réellement 2 heures de productivité. Donc si on arrive à travailler sur la concentration, sur le focus, sur aussi prendre du plaisir au boulot, d'être plus serein, forcément, bah, les gens vont être beaucoup plus productifs, mmh. donc être beaucoup plus efficaces pour les sociétés.
Mmh.
Il y a d'autres, peut-être, qui vont manquer d'organisation, de stratégie, donc rebelote, le coaching va leur permettre de mieux s'organiser. D'autres peut-être qui, comme je l'ai dit, manquent de confiance, manquent d'estime, donc permettre justement de prendre plus de risques. En fait, comme je l'ai dit, le coaching, en fait, il peut toucher vraiment tous les aspects de la vie.
Mm-hmm.
C'est juste essayer de découvrir quel est votre objectif, qu'est-ce que vous avez comme ressource et comment on va faire pour vous aider à atteindre votre objectif, quel qu'il soit.
Mmh. En tout cas, c'est important. Merci à vous, Fouad Esbiri. Je rappelle que donc, vous êtes champion du monde, hein, par ailleurs.
Yes.
Et puis, voilà, vous êtes donc coach et expert en neurosciences. On essaie donc de voir comment aujourd'hui, dans le monde professionnel, notamment à travers le continent, on peut donc calquer ce modèle de coaching pour une meilleure productivité. Merci d'avoir accepté notre invitation.
De rien. Merci à vous. Au revoir.
Merci. Alors, quand on parle bien évidemment de ces activités, cela suppose de connecter davantage les entreprises africaines. Et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Moustapha El Bouri, qui est le directeur général de Best Afrique. Hein? Best Afrique, une plateforme qui connecte les investisseurs. Bonjour à vous, Moustapha El Bouri.
Bonjour Omar.
Alors, on
Merci
vient
beaucoup pour l'invitation.
Je vous en prie, c'est un plaisir de vous recevoir à chaque fois. On vient d'entendre donc Fouad Esbiri par rapport à ses activités de coaching. Vous parcourez le continent, vous voyez comment on met en place ces stratégies qui permettent d'aller de l'avant. Alors, justement, comment connecter ses besoins par rapport au potentiel, mais aussi par rapport à ces personnes qui disposent de ces qualités-là et de cette expertise?
Oui, tout à fait. Justement, comme vous venez de le citer, en fait, on a beaucoup de personnes, je pense, qui peuvent apporter leur savoir-faire sur le continent.
Mm-hmm.
Maintenant, il faut communiquer. Donc, d'où l'intérêt d'avoir une plateforme comme celle de Best Afrique. On a fait le lancement ensemble, Omar, il y a environ 3 mois maintenant. Là, on est un peu plus de 1000 membres, c'est vraiment des professionnels. Donc, on a 1000 membres inscrits. Donc on commence déjà voilà, à proposer certains services comme celui de Fouad Esbiri à des entreprises vraiment bien ciblées sur le continent afin qu'ils puissent déjà, comme il l'a dit, découvrir, parce que certaines personnes qui ne connaissent pas ce genre de pratique de coaching, découvrir ça. Maintenant, c'est vrai que la réussite viendra avec la communication. Donc d'où l'intérêt d'avancer encore plus plus en termes de membres inscrits sur la plateforme. On fait un énorme travail derrière de contacter les entités, les directeurs généraux des entreprises. Mais ça avance très bien.
Mmh.
Ça avance très bien.
Alors, en tout cas, c'est à suivre. Et aujourd'hui, une dernière question, Moustapha El Bouri. Quels sont aujourd'hui les secteurs qui vous paraissent les plus dynamiques dans cette recherche de connexion entre, disons, businessmen africains?
Ce qui en ressort déjà, en tout cas, c'est qu'il y a vraiment un intérêt croissant et un intérêt qui se confirme entre les professionnels qui résident sur le continent africain et ceux des diasporas. Les gens veulent vraiment travailler ensemble, ce qui est formidable. Et je pense qu'il y a beaucoup de projets. On est en train aussi de voir comment faire des montages de projets d'ici fin d'année. Il y a beaucoup de projets qui vont ressortir de tout ça entre les professionnels du continent et ceux de la diaspora. Ils sont vraiment complémentaires en termes d'expérience, d'aptitude. Donc tout ça c'est très 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 positif. Hein.
Mmh, très positif. Donc nous suivrons avec vous régulièrement donc cette dynamique. Moustapha El Bouri, directeur général du cabinet Best Afrique, spécialisé dans les investissements donc sur le continent. Et vous avez lancé la plateforme Best Afrique. Je le rappelle, on en a parlé ici. Merci à vous, Moustapha El Bouri.
Merci beaucoup Omar. Merci pour l'invitation. C'est toujours un plaisir.
À très bientôt.
Zoom Express.
Et nous parlons à présent de sport et du business du sport sur le continent. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Will Biakop, qui a sorti récemment un ouvrage donc, sur la question et que nous avons eu à recevoir ici donc, sur Medium, donc dans Coémergence. Alors, Will Biakop, c'est un plaisir de vous avoir. Bonjour à vous et une question d'abord pour commencer. Comment se porte le business du sport en Afrique ?
Alors, le sport en Afrique, économiquement parlant, ne vaut pas le talent extraordinaire que l'Afrique a produit depuis des décennies pour faire rayonner l'économie du sport mondiale, qui est aujourd'hui de 2 à 3% du PIB mondial. Donc, on pense bien entendu à Hicham El Guerrouj qui vient du Maroc, mais bien entendu Didier Drogba au football, Samuel Eto'o, Mo Salah, Sadio Mané, etc., etc. Donc, des grands talents qui ont contribué à faire que des grands clubs mondiaux, hein, Chelsea, je pense aussi à la NBA avec Joel Embiid, etc., etc. Toutes ces grandes ligues ont généré d'énormes revenus, des milliards de dollars de revenus, mais malheureusement en Afrique aujourd'hui, c'est à peu près 0,5% du PIB africain, donc c'est absolument minuscule et pas à la hauteur de l'incroyable talent africain au niveau sportif, mais également de l'énorme marché que représente l'Afrique, un marché de 1,4 milliard de personnes.
C'est important à noter, donc retenez bien ce chiffre, hein, le sport en Afrique équivaut pour le moment à 0,5% du PIB du continent, ce qui en dit long sur le potentiel de développement de cette industrie. Justement, comment développer le sport africain, comment le rendre plus rentable, Will Biakop?
Écoutez, il y a plusieurs éléments à considérer. Nous, au sein de l'Institut et en partenariat avec Mazars, nous avons développé un survey, donc une enquête d'opinion auprès de 2000 acteurs de l'écosystème du sport africain. On leur a donné la parole en leur demandant quel est l'état de lieu, quels sont les challenges, mais également quelles sont les opportunités que vous voyez au sein de l'écosystème. Alors, ce qu'on apprend, c'est que, grand 1, on a absolument besoin de davantage de data. Donc la donnée est absolument manquante. On a besoin de davantage de data pour comprendre notre environnement, c'est-à-dire qui consomme le sport, quand est-ce qu'il le consomme, comment il le consomme, quand il le pratique également ce sport-là, à quelle hauteur, sur quel segment. Donc la première chose, c'est absolument avoir besoin de davantage de data, de données. La deuxième chose, vous savez, l'Afrique, l'atout numéro un de l'Afrique, c'est son capital humain. Cependant, aujourd'hui, le capital humain n'est pas formé. Donc, on a absolument besoin de développer davantage de compétences, de faire en sorte qu'on ait des formations meilleures en sports management pour faire en sorte que demain, nous ayons des gens qui soient compétents à la direction du sport. La troisième chose dont on a besoin, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que le sport est un business. Donc, faire en sorte qu'on comprenne que le sport est un produit marketable et un produit rentable. Et donc, il faut absolument monétiser le sport et casser le prisme qui est le suivant, à savoir l'économie du sport est absolument basée sur la compétition professionnelle. Ça, c'est un prisme qu'il faut absolument oublier. La compétition professionnelle est absolument importante. Les méga-events, ce qu'on appelle les Jay-Z, hein, les grands événements sportifs internationaux comme la Cannes, par exemple, sont absolument nécessaires et c'est fabuleux. Maintenant, l'économie du sport en Afrique est basée sur la consommation et la pratique quotidienne du sport par les ménages. Donc, je le redis une deuxième fois parce que c'est extrêmement important. L'économie du sport est absolument basée sur la consommation et la pratique du sport au quotidien par les ménages. Alors, c'est là le fondamental de l'économie.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, la pratique du sport au quotidien par les ménages et la consommation? Explicité, Will Biakop.
Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Ben, écoutez, quand vous savez qu'on a des sportifs amateurs qui vont faire leur sport au quotidien, donc pour faire votre sport, vous allez avoir besoin de chaussures. Vous allez avoir besoin de chaussettes, vous allez avoir besoin de shorts, de t-shirts. Donc tout ça, déjà, c'est une industrie qu'on appelle le merchandising. Et si on étale un peu plus loin, vous allez avoir peut-être besoin d'équipements, de ballons, de plots, des cages de football. Donc tout ça, c'est une industrie qui peut générer de l'argent et auquel il y a beaucoup de jobs. Il va y avoir besoin d'un designer, de quelqu'un au niveau marketing, de quelqu'un au niveau du manufacturing pour produire ces produits-là. Donc ça, c'est la pratique du sport. Et là, je n'ai même pas mentionné toute la partie sports tech donc avec notamment les montres qui sont rattachées à votre poignet et qui vont mesurer les battements de votre corps, votre pouls, et comprendre combien de calories vous avez brûlé quand vous avez pratiqué votre sport. Mmh. Et bien entendu, cette pratique sportive est au sein d'un club, et ce club vous vend un membership, donc vous êtes membre, une licence pour pouvoir faire votre sport, et ça également, ce sont des transactions économiques qui ont une valeur. Mmh. Donc ça, c'est la pratique du sport. Au niveau de la consommation du sport, eh ben écoutez, c'est par exemple tous les fans qui vont aller voir un Raja jouer au football, par exemple. Donc ça, c'est la consommation du sport. Donc il va y avoir des tickets, il faut acheter des tickets pour entrer au match. Quand vous êtes au match, vous allez peut-être avoir soif et vous allez avoir envie de manger. Donc ça, c'est à nouveau une transaction économique qui vaut de l'argent. Mmh. La consommation du sport, c'est également le gaming. Vous savez, le gaming au niveau mondial, c'est un peu moins de 200 milliards de revenus, et à l'intérieur du gaming, il y a bien sûr le e-sport, qui est la compétition, si vous voulez. Donc le gaming, c'est la pratique de jouer aux jeux électroniques, et le e-sport, c'est la compétition qui s'avère être professionnelle. Donc ça, c'est également de la consommation du sport. C'est également acheter les jerseys ou les maillots de vos équipes préférées, qu'elles soient les équipes nationales ou les équipes de club. Donc voilà, tout cet ensemble d'activités, se constitue un ensemble de transactions économiques qui valent de l'argent. Et je n'ai pas parlé, bien entendu, du tourisme sportif. Nous sommes au Maroc, un grand pays de tourisme. Le Maroc accueille sur les prochaines années une série extraordinaire d'événements sportifs, que ce soit la CAN en 2025, et bien entendu en 2030, la Coupe du Monde. Et bien tout ça implique un appel d'air extraordinaire en termes de besoins de staffing, donc on a besoin de gens qualifiés pour répondre à ces événements-là, et ça appelle également un énorme besoin d'hospitalité, parce que ça va être des millions et des millions de gens qui vont venir visiter le Maroc pour voir le football, mais également pour comprendre et être plongés dans le fabuleux hospitalité marocaine.
Que ce fut un plaisir de vous écouter, Will Biakop. Je rappelle que vous êtes donc expert en économie du sport. En tout cas, vous nous avez donné l'envie non seulement de faire du sport, mais aussi d'investir le domaine du sport en tant qu'investisseur. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence, Will Biakop. Et certainement, avec tous les rendez-vous sportifs qui se profilent à l'horizon, on aura le plaisir de vous réécouter à nouveau dans Coémergence.
Merci beaucoup, merci de m'avoir accueilli.
Merci à vous, Will Biakop. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Medium. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme donc sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, Inch'Allah.